부야.
Voilà pour le CG Beers avec le public encore.
Ils sont moins nombreux, ils font plus de bruit, je pense.
Oui, c'est ça. Mais ils sont plus bourrés.
Ils sont plus alcoolisés.
Je suis encore avec Néo, je suis encore avec Justine, je suis encore avec Valdo et je suis encore avec François et je suis encore avec moi-même. Une ambiance, nom de Dieu. Et on a des bières, parce que c'est le CG Beers. Est-ce que vous en avez? Et à chaque fois, ce que je vais dire, vous allez hurler comme des veaux. Ça va être très long.
Oh putain.
Bon, encore merci. Je peux pas. Non, vas-y, parce que moi, à chaque fois, c'est une émeute.
Comme manifestement, vous n'êtes pas encore assez alcoolisé. On attaque direct avec un tout petit blind test. Normalement, là, on arrive dans nos époques, hein, donc c'est beaucoup plus facile que ce qu'il y avait avant.
Tous les vieux. Ah, oh, bah dis donc.
Ah, bon, ça, après, c'est vous qui voyez. Hein. Allez, je commence vraiment avec un fastoche. Hein. Allez. C'est une version au piano, mais. Ce n'est pas de Last of Us, ce n'est pas Interstellar.
Vos paupières sont lourdes. Personne. Et mes blagues là, aussi.
C'est quand même intéressant.
Ouais, je l'ai pas du tout. T'as des indices?
Il y a du piano.
Faut pas que je sois trop obvious, comme on dit.
C'est l'un des films qui a fait les plus gros scores au box-office ever.
Avatar.
Qui a dit Avatar? Et voilà, c'est gagné. Noé, bravo. Tu peux venir chercher une bière si tu veux.
C'est Avatar, là.
C'est joli, Avatar au piano.
C'est le thème principal d'Avatar au piano.
Ah, vache.
Ok. Bon, bah.
Alors, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, un grand chevelu a pris une bière auprès de nous. Et il est particulièrement beau. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il me fait des signes, disons, de le retrouver plus tard. Excusez-moi, je m'égare, mais apparemment, c'est CG Beers.
Il a compris le concept de suite.
Putain, ça t'a. Oui, non, mais c'est bien, il est dans le bain.
On va le garder en speaker sur le côté. Et oui, j'ai entendu la question, ils sont prêts, pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? C'est assez connu, hein, pour le coup. Non, c'est pas le skater.
C'est la première fois que les schtroumpfs sont grands.
Oh oui, bien sûr.
Pour la caméra stéréo.
Pour la caméra stéréo et surtout pour la techno qui permettait d'avoir la prévise en filmant les gars et en ayant les personnages. Qui? Où ça? Je vois pas avec le contre-jour. Bien joué. Il en reste encore 3, désolé. Mais oui, évidemment, donc c'était pour ça, c'était pour le premier film à avoir réussi à intégrer comme ça la prévise en temps réel, en filmant les acteurs, en les ayant dans un décor, avec les personnages, les avatars, etc., que l'on connaît bien. Voilà.
Merci.
Mon petit doc, c'est à toi, je te donne
oui.
la...
Tu me donnes,
je te, donne
bah,
la...
écoute,
je te la donne.
Je te donne toutes mes... Bon,
exactement.
Genre, je vais pas m'y mettre parce que... Eh ben, on va continuer... Par... Qu'est-ce que je fais? Je fais le machin. Non, je le garde pour la fin. Je le garde pour
alors
la fin.
On continue avec
mon interview.
Les studios. Comment on les monte? Qu'est-ce que c'est que
comment
ce bordel?
Comment on les démonte
aujourd'hui? Et les questions qui s'attachent à toute l'organisation, en fait. Donc la semaine de 4 jours, le congé menstruel que Menir, j'allais dire Netflix. Que Menir FX vient d'adopter récemment, etc. Est-ce que c'est des choses comme ça qui. Alors Valdo, je vais te laisser commencer.
C'est quoi les évolutions, du coup, des studios?
Ouais.
Que ce soit dans le jeu ou dans l'animation ou dans...
J'essaye d'attraper un truc par là où... La question est super vaste et en fait, je vois qu'il y a plein de sujets à décrire.
La semaine de 4 jours déjà.
Je fais une petite préface en disant que moi, j'ai quitté mes fonctions d'associé de manière FX il y a maintenant 8-9 mois. Et je reste en excellent terme avec eux. Je leur souhaite bien entendu le meilleur ever et je les aime très très fort.
Et
juste moi, j'avais envie de prendre un peu le large et de tester de nouvelles aventures. Mais c'est vrai que avec les 4 associés qui sont Clément, Pierre, Simon et du coup moi quand j'y étais, on avait vraiment la volonté de proposer quelque chose de différent. Et parmi les choses qui étaient différentes, il y avait 2 gros points. Il y avait le point de dire bah, comment on peut faire pour inclure plus les personnes qui bossent avec nous pour qu'ils aient l'impression que c'est aussi une partie de leur boîte. Et c'est passé à travers 2 choses. La principale, ça a été la transparence financière qui a pris 2 formes spécifiques. La première, c'était de dire qu'en fait, tous les trimestres, on faisait une grosse réunion où on montrait en fait tous nos résultats et on disait bah ce projet-là on a réussi à chiffrer dessus et on a réussi à prendre tant de bénéfices. Ce projet-là bah en fait on a choisi de prendre sur nos bénéfices du projet A pour essayer d'augmenter notre démo, pour essayer d'avoir en fait des projets plus stylés dans l'avenir. Et en fait on arrivait à montrer bah le fruit de votre travail il sert vraiment à quelque chose. Il est pas en train de juste nous mettre de l'argent dans les poches, à tel point que c'était aussi la transparence financière, ça passait aussi par dire tout le monde a la possibilité de savoir qui gagne combien dans la boîte. Et puisqu'en fait, quand on y pense, bah, juste pas discuter de son salaire, c'est juste donner du pouvoir à l'employeur de bullshiter qui est-ce qui a plus d'argent, moins d'argent. Ah, mais tu comprends, lui, il est là ou elle, elle est là depuis plus longtemps, donc on peut pas te mettre à... Non, en fait, stop, on arrête ce genre de truc. Vous avez une valeur, vous avez du temps, vous avez des connaissances, vous avez une implication, et ben ça, on va le valoriser.
Tout le monde au SMIC, et c'est pas...
mais nous, en tant qu'associés, ben, ce qui était important pour nous, c'était de montrer aussi à travers ça, de dire... bah nous, on a mis de notre argent et de notre temps en et des parts dans l'entreprise, ce qui fait que si l'entreprise fonctionne bien, on retrouvera nos billes à la fin. Et donc, bah, on ne sera pas les poids les plus importants en termes de salaire, et du coup, on n'était pas parmi les mieux payés de la boîte. Donc, ce qui est, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on monte une boîte, on est souvent, en fait, en tant qu'associé, les premiers à faire des sacrifices. Mais là, on voulait vraiment le montrer et dire, bah, non, on n'est pas les plus gros salaires de la boîte. Il y a eu ça qui était vraiment très, très important. Et après, ben, c'est de dire auprès des équipes, ben, on a vraiment l'impression que on sera plus heureux si on travaille moins. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais on se dit si en
c'est
fait.
Contre-intuitif, ça
c'est plutôt intuitif.
Non, ça
dépend.
Est-ce que c'est contre-intuitif le public
Moi, je suis bien compris.
Ça dépend de l'obédience politique aussi. C'est de dire il y a des gens pour qui travailler plus, c'est gagner plus, et il y a des gens pour qui travailler moins, c'est travailler mieux. Et en fait, ça dépend un peu où est-ce qu'on se situe sur le spectre. Et nous, en fait, on a fait le pari de dire bah, si en fait on travaille en 32 heures par semaine, payé 35, pour que ce soit. Notamment pour des questions légales de chômage mais aussi de retraite, bah ça soit intéressant de fonctionner de cette manière-là.
Parce que c'est pas les heures qui sont comptabilisées, c'est le salaire. Enfin c'est le.
En fait si on alors je suis pas même si je me suis beaucoup intéressé avec Simon sur la grille salariale et on pourra en parler aussi parce qu'on a conçu tout un truc sur la grille salariale etc. Il y a une question de dire si tu travailles en 35 heures t'es à temps plein et si tu travailles en dessous de 35 heures t'es plus à temps plein et du coup les droits que tu ouvres sont pas les mêmes. Okay. Donc si nous en fait on disait bah les gens dans notre entreprise travaillent 32 heures mais sont payés 35, bah en fait ils sont au temps plein mais ils travaillent pas au temps plein. Alors on le rendait malléable en disant bah on a monté le studio autour aussi du télétravail de pouvoir dire bah comme on le disait plus tôt quand on a des renders enfin des calculs qui durent très très longtemps, bah vérifier son rendu mettons un vendredi qui est pas travaillé, bah ça rentre sur les 3 heures qu'on offre par semaine. Et c'est juste, ah, je me connecte, ah, ça s'est pas bien rendu, je le relance, ça m'a pris une demi-heure et c'est OK. On force personne à le faire, mais si les gens veulent le faire, ça rentre dans ces trois heures-là. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Et je termine sur un des points. On a essayé de faire une grille salariale qui est transparente, où en fait, on avait un Excel avec... en premier lieu, un Google Form qui permettait de répondre à toute une série de questions pour définir bah, quel est le niveau de la personne, quelle est son implication dans l'entreprise, quel est son niveau de responsabilité, etc. Et qui, à la fin, donne une espèce de jauge, en fait, de où est-ce que dans le salaire global de l'entreprise, la personne pourrait se situer. Nous, en tant qu'associés, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit les personnes en individuel et on dit... bah malheureusement, toi, dans l'entreprise, enfin, non, on dit pas malheureusement, mais on dit.
T'es une chèvre, t'auras tout.
Non, mais justement, l'inverse, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé plus souvent dans la situation où on avait des gens en face de nous qui étaient extrêmement compétents et qui se dévaluaient de ouf. Et nous, on disait, mais non, tu te rends pas compte comme en fait, tu prends plein de choses sur tes épaules et t'es super performant et tu t'es sous-coté. Et du coup, nous, on va te rajouter des points ici, ici, ici. Et ton salaire final, eh ben, il est plus élevé que ce que t'avais espéré. Mais dans la même situation, on a eu aussi des personnes qui disaient, ah, mais moi, j'ai ça comme responsabilité, je fais ça. Et on disait, bah, oui, on aimerait bien que tu sois à ce niveau-là, mais... à travers toute la production, il faudrait que tu fasses cette action, cette action, cette action pour qu'en fait on soit d'accord avec toi. Et du coup, bah, on revoit un peu à la baisse certains points.
Parce que c'est pas le cas, c'est pas ce que vous demandez à cette personne. En fait, moi je pense à quelqu'un qu'on a pris, tu vois, sur notre projet précédent où on l'a pris en disant bah, tu vas faire ça, qui étaient vraiment des petites tâches. Ouais. Il s'est retrouvé à faire la même chose que nous.
Ouais.
Globalement.
Ouais.
Et.
Payer moins.
Bah oui, du coup, voilà, c'est le problème que ça pose, tu vois. Donc,
bien sûr.
Est-ce que. est-ce que après vous arrivez à le suivre ce truc-là quand même, tu vois?
C'est extrêmement compliqué.
Bah ouais.
C'est très 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 compliqué. Ménérifix, au moment où je suis parti, on avait entre 4 et 5 ans d'historique de boîte. Comme on en a parlé plus tôt avec Justine, François et vous, l'économie était ce qu'elle était. Moi, je suis arrivé juste avant le Covid et avant qu'on soit vraiment en télétravail tous. Enfin, c'était très difficile à suivre d'un point de vue finance. Et même si en fait on a la volonté d'augmenter les gens et de leur donner le meilleur en termes de salaire, c'est pas toujours possible. Mais en fait, c'est soit t'es complètement transparent sur toute la ligne et du coup les gens comprennent, soit en fait t'es transparent que sur des bouts et ils disent non mais en fait ils essayent de nous entuber.
Bah oui, bien sûr.
Et du coup si t'es transparent sur toute la ligne, bah c'est beaucoup plus facile de dire bah regarde la gueule des comptes. Enfin là on aimerait t'augmenter mais on peut pas et nous en fait bah ça fait 3 mois où on s'est mis juste au SMIC alors que d'habitude on gagne tant. Pour en fait faire subsister la boîte. Et du coup, bah oui, on peut pas toujours faire ce qu'on peut et ce qu'on voudrait, mais on essaye de faire ce qui est le mieux, quoi.
Est-ce que là, vous avez l'impression
des étoiles
que...
dans les yeux du public, c'est formidable.
Est-ce que vous avez allez bosser à Ménérifix. J'y suis plus, mais je continue à faire de la course.
Ça, c'est un modèle que tu peux voir. Est-ce que c'était plus simple entre guillemets de l'intégrer parce que la société est plus petite et donc c'est plus manageable et que si tu le vois grossir sur des sociétés comme Ubi où tu montes à 200, 300, 500 personnes et puis il n'y a vraiment pas la même volonté peut-être derrière non plus, mais même si demain tu te voyais grossir la société, est-ce que tu penses que ça reste un système manageable ou pas? Ou il y a une volonté dès le départ de
Main Road Post. Main Road Post en Russie est un studio qui est un peu unique en son genre et leur dirigeant Arman Yain, si je n'écorche pas son nom, est très très vocal sur le sujet. Il a dit bah en fait nous on va changer la manière dont on construit nos équipes et on va le faire sur une méthode plutôt agile, plutôt Scrum, à dire bah on va faire des équipes de 6. Alors c'est la méthode agile, c'est grosso modo de dire que tu vas donner des responsabilités à une équipe et tu vas les laisser en fait tu vas leur laisser les clés de la voiture et tu vas dire bah le but c'est que tu ailles à cet endroit-là. Comment vous y arrivez? Bah vous décidez ensemble et puis si vous avez des problèmes, bah vous allez report à des gens spécifiquement dans votre équipe qui vont remonter des informations. Et surtout en fait le fond de cette idéologie-là, c'est de dire que t'as un grand tableau où tu mets toutes les tâches qu'il y a à faire et chacun en fait prend la tâche qu'il a envie de faire. Et du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont soit performants en disant « Ah, ça, je sais le faire, je le fais en 2 secondes, vas-y, je le prends, je le fais. » Ou alors des gens qui sont très motivés pour faire cette tâche-là et qui disent « Ah, vas-y, moi, ça m'intéresse d'apprendre et je vais aller discuter avec la personne qui sait faire et du coup, je vais devenir performant. » Donc, il y a vraiment une idée
mais
de
comment tu fais pour les trucs que personne ne veut faire.
Tu les fais pas. Et ta boîte cool.
Si, parce qu'en fait, t'as tellement passé de temps à faire des trucs que t'as voulu faire qu'en fait, t'as une espèce de cohésion d'équipe à te dire « Vas-y, en fait, on se déterre, vas-y, on va faire quoi.
Ouais, » ouais.
Mais du coup, pour répondre à ta première question sur l'échelle.
De la boîte russe,
par exemple. Oui, de Main Road Post, ouais, totalement. En fait, Main Road Post, la dernière fois que j'ai regardé, ils étaient 150. Et en fait, ils étaient 150 à fonctionner par équipe de 6 à 8 personnes. Avec, dans ces 6 à 8 personnes, la possibilité et le droit de dire cette personne-là ne correspond pas à notre groupe et du coup, on l'éjecte de notre groupe. Imagine, dans une entreprise, c'est pas anodin.
Imagine
quoi,
de faire
c'est...
ça en France. Ouais.
mais il y a vraiment un truc de dire, en fait... Il y a la psychologie des dirigeants et dirigeantes et les personnes qui mènent les entreprises de dire si t'es déter pour dire bah en fait le statu quo qu'on a actuellement dans nos entreprises et ben il est celui-ci, est-ce qu'on peut le transformer ou pas, si t'as des gens qui sont motivés pour aller challenger ça, bah en fait c'est possible. C'est encore plus compliqué parce que déjà monter une boîte c'est pas simple, mais le monter avec un business model qui est discutable aujourd'hui, c'est pas simple non plus, mais en plus avec une façon de fonctionner différente, c'est encore plus difficile, mais c'est pas impossible en fait. Et c'est à partir du moment où tu te dis c'est pas impossible, on va le faire, que bah tu peux montrer l'exemple. Moi je suis allé à Annecy rencontrer des gens avec qui j'avais travaillé des dires de prod depuis longtemps, où j'aurais dit on va passer en 4 jours semaine à 32 heures. On m'a ri au nez, mais genre violemment. Mais vraiment, et moi en fait, moi ça m'a donné de l'énergie en mode, toi franchement, je te retrouve dans 2 ans et juste en te montrant qu'on a réussi, tu vas juste fermer ta gueule. Mais c'était ça, j'étais énervé à Annecy, c'était 2h du mat, 4 pintes, j'étais en mode, non mais je suis ressorti, je suis là, non mais vas-y, on va faire une boîte, ça va défoncer. Et aujourd'hui, et ben, en fait, t'as la possibilité de montrer l'exemple par ce que tu fais ou alors de dire, je fais du business as usual et en fait, bah. Ouais, est-ce que j'aurais marqué mon temps? Est-ce que j'aurais fait des belles images? Je sais pas pour toi, mais moi, les films sur lesquels j'ai participé il y a 10 ans, je suis sûr que là, vu les personnes qu'il y a dans la salle qui sont très intéressées par les films, etc., ils savent les films sur lesquels j'ai bossé. Mais en vrai, à part nous, qui est-ce que ça intéresse, tu vois ? Non, quelle est l'empreinte que tu laisses dans ta vie ? Bah, moi, c'était de me dire, idéologiquement, politiquement, j'ai des idées. J'ai l'opportunité, pour une fois dans ma vie, d'essayer de les confronter à la réalité. Je suis passé dans plein d'entreprises où j'ai pas arrêté en bon français de dire ça c'est de la merde, ça putain pourquoi vous faites comme ça. et en fait j'ai dit vas-y arrête de faire le français, arrête de dire pourquoi vous y arrivez pas, va te confronter à la réalité et comprends pourquoi ça marche pas. Et aujourd'hui je suis en mesure de dire si les choses elles fonctionnent pas, il y a plein de gens entre les deux qui ont des bonnes raisons, va discuter avec eux, essaye de comprendre ce qui se passe et tu en ressortiras grandi. Et moi j'ai fait ce chemin là en étant entrepreneur avec les copains en disant il y a plein de choses qui sont possibles. Oui, on va faire des sacrifices. À nous de voir lesquels on est capable d'accepter. Mais j'encourage tout le monde à le faire, en fait. Vraiment, foncez. Alors, peut-être pas sur la 3D en ce moment, mais on va en parler. Mais,
le moment est peut-être mal choisi, mais on regarde
sur d'autres trucs, en fait. Même dans sa vie perso, quoi. En fait, il faut bouger les statu quo. C'est pas parce qu'en fait, on a toujours fait d'une manière qu'il faut continuer à le faire comme ça, quoi.
On a toujours fait comme ça. Et dans le jeu vidéo. Ouais.
Ça valide dans le public.
Dans le jeu vidéo, du coup, Justine, il y a des choses qui bougent, il y a des trucs, il y a des...
Je réfléchissais pendant que tu parlais parce que le sujet est vaste et t'as répondu à beaucoup de choses sur le sujet.
Puis il a parlé longtemps donc t'as
eu
le temps de
réfléchir. Ouais, j'ai eu le temps de bien réfléchir.
Je vais me taire.
Dans le jeu vidéo, je dirais qu'il y a quand même des choses qui commencent à émerger. Alors la semaine de 4 jours, bah, personnellement j'y suis. Je suis en semaine de 4 jours, voilà. D'accord. Et c'est très agréable.
Bon, une deuxième.
Je valide. Après, je dirais que ça dépend des boîtes. Que ça se fasse vraiment à une échelle de boîte, j'ai l'impression qu'on n'y est pas tout à fait encore. Même si je me demande si du côté d'Ubi Montpellier, je crois qu'il y avait peut-être des discussions de ça, si je me trompe.
Est-ce qu'il y a des discussions ?
Je croyais, mais peut-être pas. Hein. Je me suis peut-être trompée.
Il y a des pouces en l'air qui se sont levés, mais ils sont ironiques.
Je me suis peut-être trompée. En tout cas, pas sûr que ce soit en discussion, mais.
C'est une grosse boîte, il y a beaucoup d'inertie.
Oui, voilà.
Exactement.
Après, le truc aussi, c'est que dans les plus petites boîtes, ce qu'on a, c'est qu'on bosse beaucoup par freelance. Et du coup, la question du nombre de jours semaine, bah, en fait, elle se fait juste parce que la personne va peut-être bosser sur plusieurs projets en même temps. Et du coup, bah, elle ne va allouer que 2 jours par semaine sur ce projet-là, puis les 3 autres jours de la semaine sur autre chose, etc. Et du coup, c'est, bah, on parle moins de est-ce que tu veux un contrat 4 jours, un contrat 5 jours. C'est un contrat freelance et finalement, dans les faits, ça change pas tant que ça, enfin, la question n'est pas exactement la même et c'est le freelance qui lui s'adapte et fait son propre choix en fait.
Tu fais ce que tu veux à partir du moment où c'est dans les temps et que c'est bien fait.
Oui, c'est ça. En gros.
On rêve tous d'avoir.
Ça, en fait, c'est un vrai sujet. Hein. Parce que.
Parce que depuis tout à l'heure.
Non, mais. Dans l'industrie. parce qu'en fait, on a ce concept de travailler au quota, de travailler sur. Tu vois, de. Vraiment quelque chose presque tangible plutôt que de donner la responsabilité. Et je pense que c'est ça aussi sur la semaine de 4 jours et de la manière dont tu impliques en fait les gens dans ta société. C'est que nous, on est arrivé à un moment donné sur des chiffres, tu vois, il faut que le quota il sorte à tel moment, machin, plutôt que juste dire écoute, il y a ça à faire, c'est pour vendredi, fais-le, tu l'as fini en 3 heures, il te faut 3 jours pour le faire, prends 3 jours. Mais en fait, non, on est toujours sur ce calcul de « Ah bah, t'as passé tant d'heures, donc il faut que je te paye tant, et machin, truc. » En fait,
quelque part,
conceptuellement, il y a un truc qui marche pas. Quoi.
C'est presque c'est un modèle d'usine des années 20. Quoi.
Enfin, là, c'est le taylorisme.
En production.
Pardon, ouais, le taylorisme, exactement.
Après, pour quand même revenir sur quelque chose dans le jeu vidéo, je trouve qu'on revient un peu de loin, puisque quand même, les gens qui bossaient tous les week-ends et jusqu'à qui faisaient je sais pas combien d'heures par semaine dans beaucoup de studios indés parce qu'il fallait cruncher de ouf.
Dormais sur le bureau.
Et voilà, c'est ça. Et là, on est en train, j'ai l'impression quand même de sortir de cette culture du crunch. Donc, déjà, on va dire qu'on a ça. Après,
dans une moindre mesure.
Tout le monde n'est peut-être pas d'accord dans la salle, mais.
Ouais. On a entendu des gros soupirs. En vrai,
alors, bah, du coup, ça tombe très bien, puisqu'on se disait avec le doc qu'on avait complètement oublié de dire si vous aviez des remarques, des questions par rapport à la première partie et par rapport à ce sujet-là, vu que ça vous fait réagir. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre un peu la parole ? On a un micro ouvert au public. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, sur ce qui vient d'être dit ?
Sur le crunch !
Vous n'êtes pas obligé. Ça, hein,
y a
pas
de c'est en train de se concerter. C'est
non,
en train de
ça se concerte, ouais, effectivement. Il y a un RIC, c'est ça
toi, vas-y.
Non, mais c'est vrai que c'est un... Enfin, j'ai l'impression que c'est une tendance des nouvelles boîtes. Menhir est relativement jeune. Je pense que ta boîte aussi est assez récente.
Oui.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose. On en entend beaucoup parler. D'ailleurs, comme on est censé parler de l'avenir là, justement, parlons des jeunes. Mais
tu me regardes
en, en te regardant.
C'est clair.
Et que en fait, c'est comment. Je sais que depuis le Covid, notamment, on a beaucoup parlé de ça, hein, de la prise de conscience, du travail, de qu'est-ce que ça représente dans ta vie, etc. Et je pense que cette question-là, du coup, elle va s'imposer assez vite par les jeunes. Mais c'est vrai que dans les boîtes vieilles briscardes, dont je fais partie, c'est compliqué. C'est compliqué. Ces crunch time aussi, ils disparaissent pas complètement. Ils sont plus faibles qu'avant, clairement. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression, hein, je pense qu'il y en a qui sont dans la salle, qui sont depuis bien plus longtemps dans le jeu vidéo et qui ont vraiment crevé des week-ends et des soirées à taffer, pas payés pour certaines boîtes. Je pense que ça change un peu. Est-ce que le public est d'accord ? Ça opine du chef vite fait. Ouais.
Moi, je marche dans tes pas pour le public à main levée qui dans l'année dernière a eu l'impression ou a juste fait, on va dire, allez, plus de 30 heures d'heures sup payées ou non payées. Ouais.
On a
30 dans l'année.
Quatre mains sur une bonne trentaine de personnes.
Ok. Ouais. Ok. Ah, il y a 10 ans, j'aurais vu toute la salle personnellement. Mais
il y en a qui mentent.
Oui, oui, il y en a qui n'ont pas levé la main.
Je ne lève pas la main.
Ouais.
J'ai des noms.
Ils ont des... C'est normal. C'est normal, ils ont des lasers sur la tête.
Ouais. Ah oui, non, ouais, c'est vrai que par semaine, ouais, c'est vrai que c'est. Mais sur la... moi, je serais super intéressé parce que le monde du JV, c'est un monde que je connais un peu moins, mais c'est vrai qu'on entend énormément parler du crunch en JV. Et je serais intéressé d'avoir ton avis, en fait, sur toi. Est-ce que tu as déjà fait du crunch? À quoi ça ressemblait? Pendant combien de temps? Etc. Parce que nous, nos time frames de production sont beaucoup plus courtes que celles du jeu vidéo, quoi. Quand on a un jeu vidéo qui sort en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 et plus, nous, on a des prods où en 1 an, ça y est, c'est fini et c'est plié. Et en fait, on se retrouve à faire des crunchs tous les 2 trimestres, 3 trimestres, quoi.
Ouais, bah alors du coup sur le premier projet de ma carrière justement, c'était un jeu sorti en un an et demi et il m'est arrivé à Black Sheep Black Sheep à Paris pour le coup il m'est arrivé souvent de rester, en fait on avait les rendus les vendredis soirs qu'on devait envoyer à l'éditeur et là il m'est souvent arrivé le vendredi soir de rester un peu tard pour finir la build, pour corriger un dernier bug, pour machin truc, etc. Mais ça restait du crunch très 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 léger, je pense, par rapport à ce que
c'est genre une heure,
ouais, c'est une heure et demie de plus par rapport à ce que t'es censé faire. Et sachant que j'avais quand même un contrat de 39 heures semaine déjà de base, donc c'est pas du crunch parce que c'est le contrat qui est comme ça, mais ça rajoutait quand même sur un contrat qui était déjà très lourd.
Ouais. Ça croustille pas mal,
ça croustille pas mal. Et après, arrivé à Wild, par contre, je n'en ai pas fait. En fait, ils étaient très ouverts là-dessus, ils voulaient vraiment l'éviter. Et du coup, ils mettaient plus en place un système d'heures supplémentaires où vraiment, ils voulaient que les gens les contactent. Ils ouvraient, en fait, les heures supplémentaires. Déjà, ils voulaient pas que les gens prennent l'initiative de le faire n'importe quand. Donc ça, c'était déjà très cool. Et ils avaient des périodes où ils disaient, on ouvre les heures supplémentaires. Et si vous en faites, dites-le nous. Et après, on pouvait même choisir la façon dont on était... En fait, si c'était heures supplémentaires payées ou si c'était... congé, enfin RTT. Ouais. Donc en fait, en plus, on choisissait vraiment après comment gérer notre temps par rapport à ça. Et ça, c'était très cool. Alors après, moi, je les ai pas utilisés justement parce que j'ai pas ressenti le besoin sur mon travail, mais ça avait l'air de bien fonctionner. Donc
parce qu'elle travaille bien, Justine.
Avant de passer,
merci. Pardon.
Moi, j'avais une solution.
Rebondir.
Ah, je veux rebondre.
T'as oublié une lettre. Non, moi, je crois que j'ai une solution pour éviter les heures supplémentaires.
Tu vas dire comme bêtise.
C'est pas une connerie, justement, parce que c'est de l'intelligence, mais artificielle.
C'est ce que j'allais dire.
Avec un i avant.
Avant de rebondir sur ce sujet incroyable, j'ai envie de faire un petit blind test pour couper cette petite demi-heure. Est-ce que tu peux me le remettre, mon petit doc ? Réfléchissez sur la question de l'IA. Parce que ça va être l'utilisation de l'IA, pourquoi, comment, tueur d'artistes, est-ce créatif, tout ça. Et donc, mes chers amis, nouveau blind test, vous êtes prêts, c'est parti. Est-ce que vous connaissez ce film? Et évidemment, c'est la pub, on va attendre 2 secondes. Je monte le son.
Avec Vistaprint. Oui, tout le monde l'a eu.
Ça n'est pas Fort Boyard, non.
Il n'y a plus de temps dans l'éclaircie.
On dirait presque Edge of Empire.
Un film très connu de l'univers.
Marvel.
Ouais.
Les Gardiens de la Galaxie.
Non.
Je vous le fais.
Non, c'est pas Superman, mais c'est un peu l'équivalent.
Iron Man 2.
Ah ouais. Et savez-vous pourquoi il est le Prods? Je pense que ça, pas grand monde le sait, hein. Franchement.
Bah, il est pas le Prods, il est le 2.
C'est Prods sur une techno très précise, dont on a parlé dans le podcast plusieurs fois.
Les armures.
C'est le premier à avoir fait un rendu PBR complètement sur l'armure.
Ah, ouais.
Donc le PBR, c'est le Physically Based Rendering, si je dis pas de bêtises.
Mm-hmm. Non, puis tu le dis très bien.
Voilà. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Qui a dit Iron Man 2? C'est Valdo?
Moi j'ai dit juste Iron Man, mais pas
Valdo.
Ah
oui, mais bon, tu peux donner une bière à quelqu'un, du coup faut que tu n'en aies.
La première personne à lever la main?
Oh.
Alors, ça, bizarre.
Il y a des noms c'est qu'on gagné. Mettra dans les notes de l'émission. Oh la vache! Il y en a qui dégainent à une vitesse.
Moi, c'est de la triche. On m'a dit 6 JBS, j'ai pris une pinte. Du coup, sinon, je serai en roue libre et on va éviter.
L'IA.
Donc, ouais, l'IA.
Parce
alors,
que ça
l'IA.
Fait partie d'Iron Man, d'ailleurs.
C'est quand même pas mal pour gagner du temps, non? C'est cool. Puis pour gagner de l'argent. Il y a des gens qu'on ne comprend plus.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Du coup, je vais laisser la place avant d'ouvrir ma bouche. Allez-y.
En vrai, moi, je suis curieux de l'avis de Justine. Parce que nous, on a des antécédents, etc., des trucs, machin.
On a connu le Minitel, monsieur.
Mais une génération un petit peu plus jeune, je suis très curieux de... Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, vaste sujet, vaste question, comment commencer là-dessus? Je dirais que c'est des grosses discussions en ce moment dans le milieu, en particulier donc sur les IA d'images et de création d'images. Il y a aussi ChatGPT qui commence à être un peu utilisé pour certaines choses. C'est mon avis personnel, je pense que ça ne peut pas remplacer les métiers qui sont actuellement de toute façon dans l'industrie. Après, est-ce que c'est utilisé? Je pense pas tout à fait encore en prod. J'ai envie de penser que non. Après, pour peut-être des développeurs solo ou des boîtes très très indées à deux personnes, j'ai envie de penser que l'outil est là. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais j'ai pas de nom de jeu en tête. Voilà. Et personnellement,
En gros, l'IA, c'est pour les pauvres. Je résume, mais.
Après, c'est un peu toi qui l'as dit aussi. Est-ce qu'on gagnerait pas du temps et de l'argent en utilisant l'IA? Donc.
Ils me regardent tous. Ça va, je résume.
Personne n'a envie de se mouiller sur ce sujet.
Vas-y, moi, derrière, moi, je me mouille à fond. Vas-y.
Valdo, il est chaud, il a les.
Presque envie de rebondir sur ce que tu vas dire parce que je sais ce que tu vas dire. Presque, ouais.
Bah, vas-y, hein.
Non, mais tu veux
dire? Vas-y, je t'en prie. Je rebondis juste après.
Alors, que ce soit pour la technique, pour l'artistique, parce que c'est utilisé aussi. Alors, dans le jeu vidéo. C'est Ubisoft qui a dit, nous on l'utilise par exemple pour, si je dis pas de conneries, il y a des gens d'Ubisoft dans la salle, il paraît, qu'ils l'utilisent pour les NPC, pour
les
personnages, les joueurs, etc. Ouais. Si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi, jetez-moi une bière si je me trompe.
Sur ce point-là, il y a un peu
scénario,
il y a
ça.
Non, pas jusque-là.
Dans l'industrie, l'IA, elle a pas toujours été là, mais souvent été là. Après, c'est de quelle IA tu parles en fait.
Oui.
Donc. Ce qui fait polémique aujourd'hui, c'est tout ce qui est IA générative, donc ce qui permet de générer des images de la musique, du texte, peu importe. Mais l'IA en elle-même,
à partir du moment où tu veux quelque chose qui agit et qui n'est pas ton joueur dans ton jeu, tu as besoin d'IA. En tout cas, dans le milieu, on appelle ça comme ça, c'est le même nom effectivement, mais j'avais envie de penser que vous partiez sur l'IA générative, donc je suis partie sur ça.
Bien sûr, c'est ça, l'IA en JV.
Mais c'était justement pour...
En fait, il y a un problème sémantique.
Pour savoir de quoi on parle aussi, ouais.
Il y a un problème sémantique à la base, c'est que en fait, certes, dans le JV, en fait, t'as l'IA qui permet de décrire en fait le comportement des NPC, et de l'autre côté, en fait, t'as la question des réseaux neuronaux et du machine learning, qui sont deux choses différentes et qui sont appelées par le même nom. Et du coup, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes choses. Moi, je vais parler de machine learning dans un premier temps. Et après, je suis pas du tout qualifié pour parler d'IA tel qu'on définit en fait la caractérisation des déplacements et des actions des NPC dans le jeu vidéo. Mais pour ce qui est de l'IA à proprement parler, moi, il y a Supermonks qui m'a commandé un papier sur un état de l'art de Unreal et de l'intelligence artificielle en lien avec l'animation, qui a été publié à 3DVF, enfin sur 3DVF, qui était le but, c'était de l'envoyer au CNC pour voir un petit peu ce qui se passait, etc. Donc c'est un sujet que moi j'aime beaucoup, sur lequel j'ai fait beaucoup de veille, et on pourrait ouvrir vraiment beaucoup beaucoup de tiroirs sur ça. Si la question c'est de savoir comment ça va, si la question c'est de savoir est-ce que ça va transformer notre industrie, oui très certainement. Est-ce que c'est un truc qui va permettre en fait à des gens qui n'ont pas forcément les moyens ni techniques ni artistiques de produire du contenu ? La réponse est oui, certainement. En fait, à partir du moment où on a des outils qui permettent juste de dire « j'ai rêvé de ça cette nuit et je vais pouvoir le transformer en image soit fixe, soit animée », mais bien entendu qu'en fait, ce sera quelque chose qui va exister.
Je n'ai pas spécialement envie qu'une IA générative mette ce que je rêve. Moi non plus.
Très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des questions sous-jacentes de dire est-ce que ça va réduire notre travail. Je pense que on va avoir une réduction de la masse salariale de 80%. Ça c'est moi je
80%.
Oui. Ouais, moi fait, je maintiens ce chiffre là. Mais il faut voir aussi
des chômeurs dans la salle future.
Mais il faut voir aussi qu'en fait les 20% restants, ce seront les personnes qui auront compris que l'IA est seulement un outil en fait. C'est un outil comme un autre. Aujourd'hui, il est brandé et marketé à fond la caisse par énormément de gens. Toutes les personnes qui mettaient de l'argent dans les séries et dans les jeux vidéo durant les années Covid sont parties sur le marché de l'IA en espérant que ça soit quelque chose qui puisse rapporter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on est avec un moment où cette bulle-là est en train d'exploser parce qu'en fait, l'IA ne rapporte pas d'argent actuellement. Mais de la même manière que dans les années 98-2000, Internet ne rapportait pas d'argent. Mais en fait, dans les 10 ans qui arrivent, bien entendu que l'IA générative rapporte de l'argent. Et du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que nous, les personnes qui sont dans la salle, les personnes qui connaissent l'image, qui ont une conscience artistique de les projets qu'on est en train de faire, c'est pas que de l'image, c'est aussi comment on va raconter des histoires, qu'est-ce que c'est la sémiologie de l'image, etc. Oui, si nous, on s'empare de cet outil-là, en fait, on est dans les 20% qui continuent à avoir du travail demain. Et je pense que le fond du truc, c'est ça.
Mais parce qu'en plus, je trouve que l'outil, il est vachement résumé à l'image générative, mais c'est pas que ça, tu vois. Nous, on anime, on envoie des trucs où c'est...
Tu l'as en anime, tu l'as en... enfin, tu l'as sur plein d'aspects. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, surtout sur... Notre industrie et nos sociétés, elles se placent souvent en tant qu'élite, tu vois, qui peut accéder, enfin, qui peut produire, qui peut réaliser ces films-là. Et comme il disait tout à l'heure, tu peux avoir un gamin de 4 ans, c'est un imaginaire de dingue, en fait. Mais il n'a pas la capacité motrice et technique, peut-être, même si on dit que c'est artistique, mais ça reste technique, de retransmettre ce que tu imagines sur papier ou sur crayon. Et ça, c'est une barrière d'entrée, en fait. Et aujourd'hui, les studios, quels qu'ils soient, même dans le jeu vidéo, se positionnent où on est des techniciens quand même de l'image, ou du son, ou peu importe. Et du coup, on a besoin de cette connaissance technique pour arriver à ça. Moi en fait, je fais le parallèle avec YouTube et la télé. C'est-à-dire que la télé, c'était une barrière d'entrée pour avoir ton émission qui était diffusée. YouTube a permis à des gamins, avec leur téléphone portable, de faire des émissions. La télé, pendant longtemps, leur a dit « Vous êtes gentils, vous êtes mignons, mais c'est pas comme ça qu'on fait une émission. »
Ça coûte des sous, du matos, machin. Maintenant, un iPhone...
Sauf qu'ils ont fait... ah bon ? Moi, ça me fait marrer mes potes. Et aujourd'hui, t'as des gamins de 22 piges qui font des émissions à 22 millions de vues en 24 heures. Et là, maintenant, t'as la télé et les sponsors, tout ça qui viennent les voir. Et en fait, ça a été un outil qui a permis de démocratiser et donner accès à un média, en fait, qui était réservé seulement à une petite communauté. Donc en fait,
ça l'a pas tué, ça l'a enrichi quoi. D'autres.
Ça a tué quelque part peut-être, mais ça l'enrichit ailleurs. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'il vient de dire. C'est oui, si on se bloque sur l'IA, t'as des studios qui vont mourir, c'est certain. Enfin, je veux dire, on peut essayer de faire autant de grèves qu'on veut, c'est inévitable. Ça va arriver, c'est là. Donc maintenant, c'est où tu transitionnes là-dessus et tu commences à prendre le coche pour amener et à réussir à avoir de la créativité quand même avec ça. Et donc, tu vas peut-être plus te concentrer sur la créativité de ce que tu as envie de raconter que sur la technique, en fait. C'est peut-être ça que ça va enlever.
Bah, c'est ce qu'on espère, en tout cas.
Et c'est ce qu'on espère. Mais est-ce qu'en termes de qualité,
c'est là-dessus où, justement...
De la télé, YouTube, excuse-moi, sur YouTube, tout n'est pas bon. Hein.
Oui, mais à la télé non plus.
Michel Rucard, quand même.
Non, mais c'est vrai, non, mais c'est un vrai sujet. C'est que la télé, ça t'a... Et Netflix non plus, ouais. La télé, on te vendait quelque chose et on te l'injectait et c'est ce que tu prenais, t'avais que ça à prendre, point barre. YouTube, y a peut-être un contenu qui, toi, tu vas trouver que c'est de la merde, mais le voisin, lui, ça va lui plaire. Et au final, bah, il y en a pour tout le monde et c'est très bien. Alors, c'est là où après, on va se dire, bah, est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde puisse s'exprimer et donner sa propre créativité ? Voilà, bah c'est un autre débat, quoi. Tu vois, est-ce que t'as envie de mettre du contrôle là-dessus ou pas, quoi ?
Ce que tu décris, moi, j'ai très, très envie de rebondir dessus. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 30 ans, mais qui est devenu de plus en plus important ces dernières années, c'est qu'on est dans une économie de l'attention. C'est en fait, qui est-ce qui va récupérer ton temps ? Qui est-ce qui va réussir à capturer ton temps ? Bah aujourd'hui, ça va être des gens qui ont mis beaucoup d'ingénieurs à essayer d'analyser ce qui va générer de la dopamine dans ton cerveau et qui du coup va te garder captif d'une plateforme, que ça soit Snapchat, TikTok, Instagram, les YouTube Shorts, etc. L'économie de l'attention, elle n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui et elle va devenir encore plus importante dans les 5 années qui arrivent. Juste si tu n'en as pas conscience, t'es perdu. Genre, vraiment, en fait, il y a deux côtés du mur. Et si t'as conscience qu'en fait, les réseaux sociaux ne veulent pas ton bien physiologique, t'as compris. Et je sais que moi, de mon côté, je me bats tous les jours avec moi-même pour me dire non, je ne regarde pas les YouTube Shorts qui sont en autoplay sur la plateforme, qui sont très difficiles à arrêter les autoplay, etc. Parce qu'en fait, il y a des ingénieurs dont le but et le rôle, c'est, ils sont payés pour ça, te garder captif.
Le scrolling infini.
Le scrolling infini en fait partie. Je vous invite à regarder le documentaire qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée en français, de regarder un petit peu ce qui s'est fait en fait en termes de technologie et qui nous a amené à ça. L'IA, à travers ça, en fait, va permettre à des gens de générer du contenu très 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 rapidement, bien plus rapidement que nous. Et si vous avez envie de lire des trucs sur le sujet, je vous invite à lire The Mediator de Doug Shapiro, qui est en fait une newsletter qui parle de ces sujets-là, où il prend un des exemples de Invisible Universe, qui est une entreprise qui ne fonctionne que comme ça. Je vais faire une digression qui sera un poil lente, mais qui pour moi sera intéressante à amener à tout le monde et celles et ceux qui nous écoutent. En fait, on a un problème de business model. On se bat dans le divertissement. Nous, notre but dans nos industries, c'est de créer du divertissement, aussi bien toi en jeu vidéo que nous sur de la série, que sur du film ou sur de la publicité. C'est toujours du divertissement. À la fin, qu'est-ce qui importe pour les personnes qui injectent de l'argent pour du divertissement, c'est que les personnes regardent leur contenu spécifiquement. Je vais parler d'une industrie que je connais sur, mettons, un film. Un film, ça prend longtemps à développer, aussi bien en histoire qu'en storyboard, etc. Et du coup, bah, on va espérer avoir une bonne histoire, la marketer très, 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 très fort pour que des gens viennent, en fait, voir ce qu'on essaye de leur vendre. Et à la fin, s'ils viennent voir ce qu'on leur vend, eh ben, on récupère des sous et puis c'est cool, on continue parce que, ah non, mais vous comprenez, on fait de l'art. On fait pas de la publicité.
Marvel, si tu nous écoutes.
J'ai bossé pour Marvel, j'ai fait un burn-out dessus. Y a pas de souci. On peut en parler. Franchement, c'est un autre sujet, mais on pourrait y aller. Le fond du truc, c'est qu'aujourd'hui, ce business model-là, il est en train de changer dans le sens où les gens qui font du divertissement, si tu es en train de regarder une série devant ta télé, tu as ton téléphone à la main. Tu as Instagram à la main en train de regarder une autre série. Qu'est-ce qui est en train de gagner à la fin ? C'est la plateforme qui a capturé, en fait, ton temps. Et tu as une partage de temps entre Netflix, sur lequel, en fait, t'as passé déjà une demi-heure à scroller pour essayer de trouver un contenu potable que t'as envie de regarder. Et t'as des fois passé plus de temps à scroller qu'à regarder le contenu. Et en même temps, t'étais sur Instagram pendant que tu étais en train de regarder la série. Le fond du truc, c'est que l'IA va permettre, dans les années qui arrivent, et déjà aujourd'hui, mais c'est pas encore grand public suffisamment pour que ça soit le cas, de générer du contenu qui est très rapide à faire et qui capture cette attention-là. Et en fait, les plateformes telles que TikTok ou Instagram ou peu importe vont pousser ces contenus-là puisque ça permet à ces plateformes de garder les clients captifs et de leur pousser plus de publicité et donc plus de revenus. Donc en fait, presque, si toi t'as envie de continuer à exister dans le marché tel qu'on est aujourd'hui, faut se questionner sur à qui t'es en train de vendre ton temps de travail. Et pourquoi tu es en train de faire du contenu ? Et c'est pour ça que je rejoins en fait ce que Justine tout à l'heure disait sur la question de l'indépendant, etc. et de amener d'autres visions. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on va... Je fais encore une digression dans la digression, mais tant pis. on va vers un truc qui est un gris moyen. c'est l'anthropisme. C'est vraiment de dire que on va aller vers de plus en plus de contenu qui va mener vers un truc où tout deviendra inintéressant jusqu'à ce que t'aies des gens qui fassent des pics d'intérêt parce qu'en fait ils vont sortir tellement fort de la norme qu'en fait ça en deviendra intéressant parce que ça sortira du gris moyen de ce que tout le monde fait. Mais en fait, c'est déjà un peu le cas, c'est pas nouveau, ouais, c'est déjà ce qui existe. Pourquoi on refait de la pâte à modeler, enfin, alors, adaptée avec les outils qu'on a en impression 3D, peu importe, avec Hardman. Mais pourquoi ça peut fonctionner? Parce qu'en fait, on a une proposition différente. Et moi, j'en appelle aux gens qui disent, bah, ok, on peut avoir ces outils-là. Encore une fois, c'est qu'un outil, ça s'apprivoise, etc. Éventuellement, il y a une solution, c'est de dire que, en fait, on va essayer de générer des contenus qui sortiront de l'ordinaire. Et si on a cette conscience de dire, est-ce qu'on veut garder des gens captifs, dépendants, parce que c'est le mot, il est là, c'est une question de dépendance. Hein, je vous invite à aller voir ce que c'est la dopamine sur votre cerveau. À partir du moment où vous vous levez le matin, en fait, votre corps en sécrète. Et du coup, si vous n'avez pas conscience des mécanismes qui existent, si vous gardez votre téléphone encore une demi-heure avant d'aller vous coucher, vous vous niquez de la tête. Et sur du très long terme en plus. Peu importe. Tout ça pour dire que l'IA dans tout ça, oui, ça va faire certainement perdre des emplois. Mais en fait, la problématique, elle est beaucoup plus importante que ça.
Bah oui, mais c'est pour ça que ça énerve un peu tout le monde et que ça a fait beaucoup parler. C'est qu'en fait, je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes, tout le monde le sait, dans tous les domaines, que c'est bien plus profond que juste oui, on va remplacer 2-3 Jean-Michel design sonore. Ah non. voilà. Bref, pour ceux qui ont la ref. Et je pense que c'est ça qui fait beaucoup paniquer, quoi.
Alors qu'en fait, est-ce qu'on va aussi vers comment il s'appelle ce film? Bon, c'est pas grave, continue.
Okay. Non, mais je pourrais déballer longtemps pour.
Oui, on va peut-être changer de sujet parce que là, ça fait un petit moment qu'on traîne sur l'IA. On fera une émission avec toi si tu veux, entièrement dédiée.
Avec plaisir.
Idiocratie, voilà, c'est le film.
Ah bah
le
oui.
Mec
qui
revient.
Ouais,
de... Non, on n'y va pas. On n'y va pas.
J'espère, oui, parce que moi, je me souviens toujours de cette séquence.
Beaucoup de sissi dans le public.
Dans le cinéma où les gens regardent une paire de fesses qui pète et qui rigole toutes les 5 secondes et qui disent « Ah, oh, qu'est-ce qu'il était bien ce film !»
Pour la dopamine. Oui.
Pour la dopamine, m'a fait penser à ça. Mais, alors c'est bien évidemment, c'est caricaturé, mais...
En 2 minutes...
Ouais, on n'a pas attendu l'IA pour faire ça, en fait.
Vraiment,
c'est ça qui m'étonne.
Vraiment, en 2 minutes, c'est ça. C'est qu'en fait, les plateformes poussent ce genre de contenu parce que c'est des fonctions qui des contenus qui fonctionnent de la même manière que les chaînes de médias en continu type BFM etc. en fait ne fonctionnent que sur la peur etc. parce qu'en fait c'est ce qui vend. Oui, ça existe, mais en attendant, en fait, on n'est pas obligé de suivre que ça. Il y a des poches de résistance qui se font, des gens qui font taches d'huile, qui font qui comme de la rouille qui se répand et qui monte en fait des espèces de poches de résistance, de dire venez, on crée autre chose, on le crée en petit groupe jusqu'à ce qu'en fait on soit solide sur nos appuis et on propose quelque chose au plus grand nombre. Et ces gens-là existent, ils sont pas médiatisés parce qu'en fait ils ont pas d'intérêt à être médiatisés aujourd'hui et qu'en plus ça transforme pas en fait des gens qui sont heureux dans leur vie et qui sont épanouis ne fonctionnent pas sur les réseaux sociaux juste par modèle en fait.
Donc,
ça existe. Il faut pas perdre espoir. Il faut juste essayer d'aller plus sur de l'humain en direct, plutôt que. J'arrêterai sur ça, mais en fait, avec les réseaux sociaux.
C'est un débat politique, c'est dommage. Ouais. Je vais laisse parler
votre
après.
Mais parce que j'ai pas envie de monopoliser la discussion sur un truc qui m'intéresse profondément. Mais en fait, depuis les réseaux sociaux, on n'a jamais été aussi écartés les uns que les autres. Genre, à quel moment, en fait, j'ai l'impression qu'en fait t'as l'illusion d'être
t'as
avec des gens.
T'as pas un ado de 15 ans à la maison, toi.
Ah ça bah non, clairement.
Mais en fait,
ce serait bizarre.
mais vraiment, le fond du truc, eh ben il est là. Je trouve que il y a des gens qui font des choses qui sont intéressantes. Ça va mettre du temps avant qu'on entende parler d'eux, mais ils existent. Mm-hmm. Et après, vas-y, toi aussi, crée un truc dans ton coin et fais ta Jules, fais
un podcast en public, par exemple.
Par exemple.
Ouais. En public.
Ça va, ils sont pas encore endormis.
Ils
sont réveillés.
Ils ont pas vomi.
À notre maigre échelle, avec Menhir FX, c'est ce qu'on a cherché à faire, à avoir un impact en direct, de pouvoir te dire ce que je vais faire et comment je vais utiliser le temps de ma vie va avoir un impact sur le monde qui m'entoure. Mm-hmm. Mais juste à ton échelle, ça suffit en fait de faire tâche d'huile. Et c'est ça qui est important à mes yeux. Et l'IA, c'est pareil. C'est de dire, encourager, par exemple, quand je passe dans les écoles, à dire... Faites des histoires qui racontent des trucs et pas juste une course-poursuite, c'est déjà leur donner le pied de t'as une possibilité de raconter quelque chose et t'as un impact sur le monde parce qu'en fait, t'as la puissance d'un média et du coup, tu vas transmettre quelque chose, faire en sorte que ce que tu transmettes, c'est un intérêt.
Et c'est ce pas de la merde, quoi. Et c'est ce qu'on... Enfin, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va forcément faire la différence, c'est la créativité que tu vas apporter, en fait. Et plus le côté technique à l'image ou à la création, quelle qu'elle soit, en fait. Ça, ça va perdre en valeur et on va être les premiers à sauter. Hein, mais oui, c'est, cette transformation, elle va être obligatoire.
Est-ce que la VR ou XR, c'est-à-dire la réalité virtuelle ou la réalité mixte, va pouvoir permettre de faire émerger justement ce genre de choses, de nouvelles expériences?
C'est dead. Alors,
même si... Comment?
C'est dead.
Ouais. Bah, ça, faut réinventer un langage cinématographique.
Ils ont raté le départ quand même, là.
Oui, ça fait des années. Je suis d'accord, ça fait des années qu'on nous en parle, mais qu'on la voit, qu'on machin... Est-ce que ça a effectivement un avenir encore ou pas? Parce que ça avait du potentiel au départ.
J'ai envie, allez-y, mais j'ai...
Justine.
Je saurais pas trop dire parce que c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'envole pas trop, donc il y a pas beaucoup de jeux qui sortent par... Enfin, il y en a des jeux qui sortent en VR, mais il y en a pas énormément non plus, et je saurais pas trop comment répondre. C'est dur de prédire si ça va s'envoler ou pas. Je pense que peut-être s'il y a à un moment donné quelqu'un a vraiment la bonne idée, la bonne mise en scène, le bon truc, mais je suis pas vraiment sûr.
Ça reste une expérience unique en fait.
Ouais, mais en fait,
tout le monde passe pareil.
C'est le device quoi. Tu vois le temps que t'as. Voilà, le problème c'est ça. C'est.
Qui a un
kit
VR ici, quoi.
Enfin,
oui, c'est
t'as vu ce qu'il faut mettre en place.
Qui a un casque VR dans la salle?
Non mais là.
Ah bah quand même, hein. 8 ou 9, un truc comme ça.
Ouais, il y a 9 max. Bon.
C'est tous ceux qui sont au chômage, c'est bizarre.
On l'a refait. On l'a refait. Qui utilise son casque VR?
Ah oui.
Donc déjà, t'as perdu 2 mains.
Il y en a moins.
5,
ah,
ouais.
Si, quand même.
Allez, 5. 5 sur 9.
Bon, et maintenant, alors... qui a menti?
Mais on est dans le domaine aussi.
Non, mais voilà.
Ouais.
C'est pas représentatif.
C'est bien,
je veux dire, c'est.
C'est dire, c'est que si on est dans le domaine et qu'on est que 5 sur 9.
Non, mais c'est ça.
Et que c'est. Enfin, c'est une préparation, quoi. Tu vois, c'est pas juste j'allume ma console ou j'enfile des lunettes.
Ouais.
C'est quand même, tu fais de la place chez toi, tu... Enfin,
surtout au jour où, au contraire, justement, avec nos consoles, elles se mettent en veille, et puis en fait, on appuie sur un bouton, et on n'a pas vraiment besoin d'attendre qu'elles s'allument, mais on a juste à reprendre notre jeu. Enfin,
ouais. Oui, la c'est Switch, presque un truc de l'ancien temps.
Le casque VR, c'est pareil, c'est tu presque... le poses, tu mets pause, tu le remets, et voilà, non?
Enfin, tu le remets pas comme
oui,
des lunettes.
Oui, mais c'est pas juste tu prends, t'appuies sur un bouton, c'est tu le mets, c'est tu prends les trucs, c'est tu te fais de la place potentiellement...
Tu te manges 3 fois le canapé.
Dans ton salon, bah ouais, c'est ça... Tout le monde n'a pas la place chez soi pour faire ça.
Et que t'as pas mal aussi de soucis de des gens qui ont de perte d'équilibre, enfin tu vois de nausées, de tout ça, qui est assez compliqué.
De moins en moins quand même.
Bah,
moi, je l'entends toujours. Hein. Moi, je l'entends toujours.
Beaucoup quand même.
Je vous invite à lire un des bouquins de Damasio qui s'appelle La Vallée du Silicium où il parle de l'Apple Vision et moi je partage son avis sur le fait de dire c'est la mort de l'âme. Dans le sens où, en fait, tu as, à travers le temps, comment les grandes avancées sociales se sont faites, c'est de modifier l'espace qui nous entoure. Et là, à partir du moment où tu enfiles un device qui va modifier l'espace qui t'entoure, eh ben, tu as une accroche dans le réel qui est extrêmement importante. Et du coup, tu te retrouves avec Ray-Ban qui dit, ça y est, on a des lunettes qui, pour le moment, en fait, ne peuvent que filmer, etc. Mais en fait, très rapidement, c'est un peu comme le Segway, tu vois. Genre, l'inventeur du Segway, il était un peu trop early. Et en fait, derrière, tu te retrouves 10 ans plus tard et t'as, en fait, tout le monde qui est en trottinette électrique dans la rue. Et en fait, pour moi, l'Apple Vision, c'est exactement ça. C'est exactement ça qui est en train de se passer.
Trop tôt, quoi.
Pour
moi, ils sont en avance, ces cons-là.
Ah oui, oui.
Encore.
Ah, mais bien entendu. Mais moi, je pense que c'est catastrophique, en fait, ce qui va se passer si ça fonctionne. Et j'espère que ça fonctionnera pas, mais de tout cœur. Pour moi, c'est une catastrophe qui est en train d'arriver.
Ready Player One, quoi.
Hein?
Ready Player One.
Non, bien pire. Bien pire. Non. Moi, je suis extrêmement pessimiste sur ce sujet.
Oh merde.
Mais je pense que
allez lire La Vallée du Silicium de Damasio sur ce sujet-là, c'est édifiant. Il dit tout ce qu'il y a à savoir dessus.
Bon, alors c'est deux cochons qu'on la chiasse.
Bon, en tout cas,
on est en train de déprimer toute l'audience.
C'est pas l'avenir, ou alors c'est l'avenir pas très glorieux, quoi.
Non, mais en fait, c'est vachement intéressant, c'est de pouvoir dire que il y a un jour
j'ai
où.
Désolé.
Ouais, désolé. fallait pas m'inviter. Non, mais en fait, à partir du moment où tu pourras te dire que il y a un monde dans lequel tu pourrais exister, à dire que ton appart il est fait complètement de blanc pour qu'en fait ton XR puisse te projeter le monde que tu veux autour de toi.
Mais c'est déjà le problème avec ton téléphone. Hein.
Ouais, mais déjà en fait, ça, le mais ton téléphone, eh ben, c'est un carré de 5 par 3 dans ta main qui te donne encore une vision périphérique du monde qui t'entoure. À partir du moment où ton monde périphérique devient l'XR, c'est fini.
Enfin, quand tu as ton niveau d'attention dont tu parlais tout à l'heure, qui est capté par ton téléphone, il n'y a plus que ton téléphone qui existe.
Mais transpose-le à ta vision qui, en surimpression, te montre des choses qui n'existent pas.
Je défends pas le truc, hein, je dis
vous
juste
engueulez
que c'est...
Vous engueulez pas, vous engueulez pas.
Ah non, non, du tout, on se connaît très bien, François.
Tu parles aussi, j'ai l'impression que c'est une vision très de célibataire, tu vois, et de sans enfants.
Allô?
Non mais c'est pas toi que je voilà, c'est juste j'ai l'impression parce que moi je pense la même chose hein, je suis assez d'accord là-dessus, c'est que moi j'en ai eu un pendant pas mal de temps mais c'était plus pour faire Half-Life Alyx au final et puis voilà. Et Beat Saber à mort. mais ce que je veux dire c'est que j'ai quand même l'impression qu'une fois que tu parlais justement des réseaux sociaux qui nous ont vachement déconnectés et en fait le truc c'est que il y a un moment donné t'es avec tes gosses, t'es avec ta femme, t'es même avec tes potes, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de très alors c'est bizarre, c'est paradoxal parce que ça nous a pas empêché d'être tous sur notre téléphone quand on discute, mais il y a quand même une barrière de fou à te dire que là, il y a le problème qu'il y a que toi qui vois ce que tu vois, donc tu partages plus rien. Ça, au moins ton tel, à la limite, tu partages ton son dans le métro avec les gens, même si c'est des connards. Bref.
C'est pas dit que tu puisses avoir plusieurs personnes qui ont des lunettes et qui partagent la même réalité que toi.
Ah oui, mais après.
Oui, j'ai testé chez quelqu'un à Montpellier qui a une très bonne expérience à Odysseum, que je vous invite à faire, de laser game en VR. Et en fait, c'est super intéressant. T'es à plusieurs dans un monde VR, c'est possible en fait.
Oui, mais t'es dans le cadre d'un jeu, t'es pas dans la vie réelle.
Et qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire dans la vie réelle?
Barrière.
Ah non, ça n'empêcherait pas. Mais j'ai du mal à croire que... Après, bon, je suis peut-être un vieux et voilà, mais...
Oh, ça balance dans le public, la vache.
À voir.
Je suis loin de. J'ai mon avis qui est très tranché sur la question, etc. Mais j'espère avoir tort. Vraiment, très fort.
Bah, j'espère que tu vas avoir tort. Oui, effectivement. Ça me donne pas envie.
J'espère que ça fonctionnera jamais ce truc. Mais je vois l'engouement des gens qui l'ont essayé, qui disent c'est le truc le plus incroyable de ma vie.
Oui, mais t'as le wow effect, c'est comme quand tu mets un casque de verre pour la première fois, t'es là, waouh, c'est une dinguerie. En fait, au bout de minutes, tu te rends compte que, non, en fait, c'est naze. Déjà, je transpire.
Jusqu'au moment où, en fait.
Je me suis cogné trois fois.
Regarde, autour de la table, on est 4 sur 5 à porter des lunettes. À partir du moment où tes lunettes, en fait, t'injectent ça dans ta vision du réel.
Moi, j'ai envie qu'on discute et que j'ai pas Wikipédia devant les yeux, j'ai pas envie que.
Mais il y a plein de gens qui ont envie. Il y a plein de gens où, en fait, à partir du moment où ils sont drogués par la dopamine, auront envie de l'avoir en permanence.
Heureusement que je serais mort, voilà. Bah, je sais pas, hein.
Waouh.
Ouais.
C'est... Bon, désolé. Hein,
non, bah écoute.
Ça, jamais de la vie, je vais me faire réinviter. Hein, c'est la catastrophe. Hein.
Si, c'est passionnant. Mais c'est vrai que.
Alors, en parlant de tueurs, la mocap, est-ce que c'est un tueur d'animateur pour
non,
plus tard?
Non, oh là là, mais non. La mocap, tueur d'animateur.
Ah, oh, vivement.
La mocap couplée à l'IA, par contre, peut-être.
Ah, la mocap couplée à l'IA.
Bah, déjà, faire de la mocap pour du cartoon, quand il va falloir stretcher le gars pour faire du... Ça va être compliqué, quand même.
Bah, pourquoi pas?
Bah non, c'est pas possible.
Tu vas le démembrer un peu.
Tu peux pas mocaper un gars qui fait du stretch, c'est sûr. Non, le cartoon est assez safe.
Ouais, le cartoon est plutôt safe. Après avoir avec de l'IA, encore une fois, comme tu disais, bon, là, faut tempérer un peu.
À quel moment c'est intéressant d'aller enregistrer des gens pour faire de la mocap quand en fait tu t'es entraîné sur 98% du internet connu et de YouTube pour générer des IA qui te permettent de faire de l'anime, tu vois, genre la mocap.
Tu veux dire que tu pourrais te passer complètement de la mocap parce que l'IA
ça oui, ça c'est mais bien sûr.
Ouais.
La mocap a pas d'avenir à mes yeux.
Bah disons qu'une fois que t'as ta banque, ouais. Enfin, non, mais t'as raison.
La mocap telle qu'on la connaît en tout cas, de l'analyse de vidéo, ça se fait déjà aujourd'hui. De détecter une personne, un squelette et retranscrire cette animation, ça se fait déjà.
Et puis on est les premiers à dire que la mocap, c'est tendance à lisser de façon l'ensemble, c'est un peu tout le temps la même chose, c'est pour faire du réaliste,
quand,
tout ça.
Quand tu regardes Andrew Serkis qui dit moi j'ai joué Gollum, etc., faut aller discuter avec les animateurs, animatrices qui derrière ont modifié toutes les poses clés en fait.
Oui, bien sûr.
Il y a ça aussi qui existe, c'est de dire que oui, il y a la mocap.
Ça sert d'intention et de...
Ouais, mais de là
de
à dire
référence.
Que... Oui, je suis d'accord. Mais en fait, les animateurs, animatrices, ils ont aussi une salle de référence où ils enregistrent leurs vidéos, ils font leurs références eux-mêmes.
Oui, clairement.
Donc du coup, Andy Serkis va être remplacé par l'IA. Le mec qui a rien compris, qui résume.
Au Radiraf, il y a déjà 3 ou 4 ans, il y avait déjà des gens qui proposaient des services d'IA de dire, en fait, tu te filmes avec n'importe quel téléphone et on te sort un squelette de tes poses, en fait. c'était le next-gen de l'IA qui fonctionnait pas très bien. Et je me souviens de l'assemblée du Radiraf qui riait au nez de ces gens-là à dire « Non, mais regarde, ça marche pas leur truc. Non, mais en fait, projette-toi dans 4 ans, 5 ans. »
Et aujourd'hui, ça marche.
Et aujourd'hui, ça marche très bien.
C'est un petit peu ce qui se passe avec, justement, sur Unreal, avec tu te filmes avec un iPhone et tu as, par exemple, ton facial.
Bien sûr. Et comme le disait François, et ben, en fait, l'IA est autour de nous depuis très, 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 très longtemps. Et c'est juste qu'en fait, ça n'a pas été marketé de cette manière-là, mais ça existe depuis très longtemps.
Waouh.
Eh bien, on va voir si vous avez été attentif sur ces dernières minutes. Je vous fais un petit blind test. C'est les deux dernières bières à gagner. Soyez prêts. Il n'est pas simple, celui-là. J'ai dit ça à chaque fois.
Soyez prêts, le Roi Lion.
Donc, soyez prêts. Pas ça. Ça part.
Est-ce que quelqu'un connaît ce film ?
Ce n'est pas La Petite Sirène, non ?
Veille de Noël, il y a des années. J'étais allongé tranquillement dans mon lit.
J'étais allongé tranquillement dans mon lit.
Je ne froissais pas les draps.
Oh oui, oh, bravo. Très bien, Pôle sorti.
Express.
Bravo, bravo.
Encore le une Pôle production Express. Ambline de Monsieur Steven Spielberg.
Et sais-tu pourquoi ? Pourquoi il est le Prums ? Plus précis. Non, pas l'IA. Performance capture, j'ai entendu. Cyril, voilà. Bah écoutez, vous prenez tous les deux une bière et puis voilà, comme ça c'est réglé.
Bravo. Première performance capture.
Premier film à utiliser la performance capture. On est en train de parler de Sirkis qui l'a bien perfectionné avec Gollum, effectivement. Et puis
et
Avatar.
Et la planète des singes.
Bien sûr, la planète des singes. Avatar.
Moi j'ai trouvé ça plus impressionnant presque que Gollum.
Ouais, clairement. Voilà, bah écoutez, c'était mon dernier blind test Prums. J'espère que ça vous a plu.
Ouais.
C'était un peu dur. C'était un peu dur, je reconnais.
Mais revisiter le blind test de cette manière-là, c'était vraiment stylé. Hein.
Cool, tant mieux. C'était
à la fois genre juste basé sur l'audio pour essayer de deviner le film et derrière pourquoi, c'est pas sympa.
C'est tordu, ah, ouais, c'est tordu.
Et une bière à la clé. C'est une bière à la clé. question à vous trois, indépendamment. C'est quoi la techno que vous attendez le plus ? Par rapport à votre industrie, ou par rapport à votre métier, à votre boulot, c'est quoi le next step que vous attendez, vous ?
De l'argent.
De l'argent.
Ah, c'est une bonne réponse, en vrai.
L'évolution, la révolution, quoi.
La remontée du Bitcoin. Non, pas du tout. Ah.
Sacré blanc.
C'est compliqué.
Ça, c'est super dur,
en fait,
comme
c'est
question.
C'est compliqué aussi. Parce
oui, je sais.
Ça bouge tellement
vite. Dis pas
que
des conneries.
Ça bouge tellement vite que
même
c'est...
Même un truc un peu précis, un truc que là, vous dites, putain, tous les jours, je me fais chier avec ça, quand est-ce que ça va être réglé ?
Les animateurs !
Les animateurs ! Je quitte ce plateau !
Non.
Scandale ! Scandaleux ! C'est honteux !
J'ai une pseudo-réponse, mais c'est plus une question du présent que du futur. Enfin, moi, aujourd'hui, je fais un boulot où, du coup, j'ai fait pas mal de métiers différents, et le boulot que j'ai aujourd'hui, il est partagé entre faire... du pipe, du sysadmin, de la CG, du CGSup, etc., peu importe. Et aujourd'hui, il y a une partie du métier que je fais, notamment de système administrateur et d'administrateur réseau, et de comment tu fais pour que toutes les machines d'un parc informatique fonctionnent avec un Active Directory sur Windows, je t'en passe les détails, sur Proxmox, il y a un LXC qui tourne avec une VM dans laquelle, et ben, en fait, il y a des Docker, peu importe.
C'est pas ça.
Et ben, aujourd'hui, ce métier-là, moi, c'est pas ma formation. Moi, je suis sorti il y a 11-12 ans de l'ESMA de Montpellier, et à l'époque, on nous apprenait pas les effets spéciaux, et juste, je me suis formé en autodidacte. Aujourd'hui, je fais ce métier-là où il aurait fallu quelqu'un de plus qualifié que moi. Je le fais grâce ou à cause de ChatGPT. Je fais ce métier-là de dire, bah, en fait, je dev des scripts. Alors, bah, je faisais déjà du Python avant, etc. Mais aujourd'hui, en fait, techniquement, j'ai pris la place de personnes qui auraient pu exister au sein d'une entreprise. Et parce qu'en fait, il y a ChatGPT, bah, je peux faire ce boulot-là. Et je suis très bien payé aujourd'hui parce que j'ai ChatGPT. Et mon employeur me donne ChatGPT en version premium pour que mon boulot.
Oh, c'est intéressant, ça.
Donc, en fait, l'outil rêvé, je l'ai déjà à ma disposition.
Chill, carrément.
Et en fait, je rends service à la boîte parce qu'en fait, j'ai des connaissances transverses sur beaucoup de choses. Et j'ai toujours parié dans mon expérience personnelle, professionnelle, de dire, au plus je suis tentaculaire, au mieux c'est, et j'utilise la loi de Pareto le mieux possible, de dire bah en fait je vais prendre 20% pour apprendre 80% du métier, et du coup j'arriverai à faire plein de trucs d'un coup, et quand il y a des gens qui vont me demander des choses, je vais pouvoir les débugger même si je connais pas leur software.
Donc tu n'attends plus et... rien.
Bah alors, non. C'est assez intéressant parce qu'en fait l'IA elle est évolutive. Donc
on est retourné dans l'IA finalement.
Mais parce qu'en fait, si on le considère comme un outil un peu générique, ce qui est assez drôle, c'est quand c'est arrivé et qu'au début, on disait « Ah oui, mais bon, ça génère que des images. » Et puis, 6 mois après, c'est « Oui, ça fait que... Oui, bon, ok, ça fait de la vidéo, mais il y a des artefacts dans tous les sens. » Et en fait, les gens regardent l'état de l'art à l'instant T sans voir la progression, en fait. Et c'est vrai que si tu prends un peu de recul sur, mais même pas les deux dernières années, où on disait, ah mais non, mais ça fera jamais d'animation. Bon, ok, ça commence à animer un peu. Bon, mais ça fera pas d'animation cartoon. Et bon, bah, ça fera pas la musique, si, bah, en avant. Et là, tu fais.
Donc, en fait, ça fera des blagues de merde. On sera.
Oula, ça va être. À mon avis, ça va pas être dur à trouver.
C'est vrai.
T'es là, merde. Bah, du coup, c'est ouais, voilà. Comment tu peux essayer d'imaginer l'outil, ou est-ce que vraiment ça va s'arrêter? On aime bien dire, bah tiens, ça va s'arrêter là, ça ira pas plus loin. C'est ce qu'on n'arrête pas de se dire en ce moment pour se rassurer. Bon, en réalité, on voit bien que c'est que le début, quoi. Mm-hmm. Donc. Bon,
et du coup, qu'est-ce que tu attends,
bah oui,
toi?
Vous attendez, là.
La mort de l'IA?
Eh bah, ben, hamac, cocktail, deux palmiers.
Non, pour ton travail.
Ah, ben.
Hamac, cocktail, palmiers. Ok, d'accord.
Faut changer de modèle pour ça.
Ouais, changer de modèle. En fait, ça, on n'en a pas trop parlé, mais tout ça va forcément changer les modèles à un moment donné.
C'est-à-dire les modèles de quoi? Les top modèles
aussi, peut-être. Tous tes modèles économiques. La façon dont tu rémunères les gens, la façon dont tu fais le business, en fait. Tu vois bien qu'à un moment donné, il y a un problème. S'il dit que 80% des salariés vont disparaître...
C'est pas disparaître, être transformé. Hein.
Mais cette césure, on sait pas quand est-ce qu'elle va arriver.
Ouais, bien sûr.
On sait pas où elle est.
Elle est en cours.
Ouais, c'est ça.
On a quand même aujourd'hui pas mal d'hypocrisie dans l'industrie à dire ah oui, mais l'IA nous pique notre travail, ça fait que de la copie, ça reprend le taf de bidule de machin. On n'a pas attendu l'IA pour faire ça, hein, les scénarios atro d'Hollywood, de copier-coller. On commence un film par un mood board. Tu vois, ou un projet par un mood board qui est une inspiration. J'aime bien les guillemets.
Picasso disait à droite à gauche, un bon artiste vole. Picasso disait ça, un bon artiste vole.
Et dans Picasso, il y a Pic.
Oui, il va y avoir un changement. Où est-ce qu'il va être? Je sais pas. Moi, je suis Netflix, je me dis, ok, j'ai tout ce catalogue-là, j'ai ton persona. Bien évidemment qu'à un moment donné, je vais chercher à générer un film adapté juste à ce que tu veux.
Pour toi,
ouais. Ou à la catégorie à laquelle tu appartiens.
La valeur de Netflix aujourd'hui, elle n'est pas sur le catalogue. Hein. Elle est sur l'information qu'elle a sur nous, en fait.
Sur l'utilisateur,
bien sûr. Ce qu'on a revu, le découpage des films et toute l'analyse qu'ils ont derrière. C'est ça l'or numérique, hein, au final, pour eux. Donc, ils ont quand même toutes les balles pour te dire, tiens, je vais te créer ton film, rien que pour toi, et basta.
Ouais, clairement. Et Justine, t'attends quelque chose?
Non, moi j'attends.
D'avoir la parole, peut-être?
Non, mais en fait, c'est très bien parce qu'ils m'ont laissé le temps de réfléchir, mais en fait, il n'y a vraiment rien qui me vient. Enfin, je ne saurais pas trop dire. Moi, j'ai très peu utilisé l'IA pour l'instant, donc je ne vois pas trop le potentiel de ce dont vous parlez.
Et dans ton quotidien, il n'y a pas
un. Mais dans mon quotidien, bah, je veux dire, après, oui, peut-être éventuellement des mises à jour sur les outils, enfin, sur Unity, sur ce genre de choses, mais après, enfin, moi, je crée le jeu, donc après, qu'est-ce qu'on peut améliorer dessus? Enfin, j'ai l'impression qu'au quotidien, mon travail, ça va, j'arrive à le faire correctement et j'ai pas. À part peut-être 2-3 petits outils supplémentaires dans le moteur, il n'y a pas de choses en particulier vraiment que j'attends de pied ferme.
Le présent vous convient, mais le futur vous fait peur.
J'ai pas particulièrement peur du futur. Je sais que j'ai des plans B et C sur ce que j'ai envie de faire et je connais des gens dans la salle qui sont déjà activement en train de changer de voie et je pense que en fait le fond c'est de savoir est-ce que t'es suffisamment informé pour savoir qui est-ce que tu sers et quels sont les intérêts des personnes que tu sers et si c'est des producteurs qui en fait cherchent à faire de l'argent, bah si toi tu cherches à faire de l'art pour une personne qui cherche à faire de l'argent, t'es pas au bon endroit, c'est tout. Et du coup, le fond, c'est d'essayer d'aller se battre avec des gens qui cherchent à faire de l'art et que toi aussi, tu cherches à faire de l'art, en fait.
Et faire de l'art pour les gens?
Bah, ça dépend. De pas forcément. Oh.
Oui, il faut suivre. Hein.
Okay. C'était là.
Hey.
Ça y est.
Quick sync.
Ceux du fond, c'est bon.
Mais le fond, il est là, je pense. C'est de dire, est-ce que je suis au bon endroit pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire? Et il y a plein d'endroits où c'est possible de le faire. Et il y a plein d'endroits où on n'est pas à sa place. Et le tout, c'est d'avoir la conscience de est-ce que je suis avec les bonnes personnes?
Très bien. Ah, il y a eu des petites applauses dans le public. Ouais.
Timidou, mais il y en a eu un peu. J'entame sur l'interview offset.
On va conclure. Allez, sur l'interview parti, offset et puis après on va libérer tout le monde.
J'ai l'impression que tout le monde est fatigué dans la salle. Ouais, tout le monde est là genre.
Il y a de la fatigue. Ou beaucoup.
Let's go.
On n'est pas.
Comment
en
ça fait plaisir.
C'est une interview en toute franchise.
Ah.
D'accord. Il y en a qui commencent déjà à se dire qu'est-ce qui va sortir encore comme connerie. Le futur pour vous, en toute franchise, vous le voyez comme Terminator, franchise, tout ça. Ça y est, vous l'avez.
Oh.
L'IA, les robots, tout ça, amis, ennemis.
Ah ouais, encore.
On vient d'y répondre.
Non voilà, vous venez d'y répondre. Oui, non, mais c'est ma question.
Ah.
Non, je...
Vas-y François, vas-y, lance-toi. Si le futur, je le vois comme décroissant.
Ah ouais.
Ouais. Franchement, c'est genre low-tech. C'est okay. Au plus tu vas vers la physicalité des choses, au plus tu vas réussir à t'en sortir dans le monde de demain. Et au plus tu vas du côté numérique, au plus ça va être du côté franchise, du coup, si je reprends ta question. Au plus tu vas vers le big business avec des gens qui ont beaucoup de moyens. Au plus, en fait, tu vas te faire broyer par une machine dans laquelle tu auras zéro contrôle. Moi, je le perçois comme ça.
Ok.
François est plutôt d'accord.
Ouais. J'ai bien vu.
Écologiquement catastrophique, pour ma part. après, je sais pas trop... J'ai du mal à vraiment imaginer l'impact que ça aura sur la société et l'économie et tout ça. Mais pour ma part, personnellement, pour l'instant, je suis plutôt pessimiste sur ce que sera notre avenir.
C'est vrai que c'est drôle quand même, parce que t'as vu le film. Tu sais que ça va finir comme ça, puis après tu as du Boston Dynamics et tout ça, tu arrives avec le robot, tu dis c'est pas bien, mais en même temps c'est cool quand même. Et tu y vas en fait.
Il fait des backflips quand même.
Et c'est cool.
Et il y a un chien avec une mitraillette sur la tête. Ouais. Et du coup, quel film vous conseilleriez dans cette franchise Terminator?
Moi j'ai vu que le premier, du coup.
T'as pas vu le 2?
Arrête.
Non.
J'ai vu le 2.
J'ai vu le 1 grâce à ma compagne, c'est... et j'ai dû attendre 30 et des brouettes.
J'ai vu les deux premiers, mais je réfléchis parce que ça fait un moment. Je dirais le premier.
Ouais. Ah ouais, moi, je serais parti sur le 2, moi.
François, il était plutôt sur le 2. Ouais, c'est marrant, c'est on cite pas les autres. Bon.
Parce que...
ouais.
C'est parce
qui n'ont
qu'on
jamais
est vieux.
Existé. Non, regarde Terminator 2, il est...
Okay. Voilà.
Le futur, en toute franchise, vous le voyez comme Matrix? C'est-à-dire, on vit dans une simulation, dans un... monde...
Ou il y a un ou
on
pas.
Ou pas.
Ah.
Ou pas.
Ou ailleurs.
On pourrait y aller.
Est-ce qu'on y est déjà?
Ah, ça, je sais pas.
Il y en a qui disent qu'on y est déjà.
Ah oui,
pas
loin.
Non, non, mais qu'on vit vraiment déjà dans une... là, en ce moment, ce podcast est dans
tu veux dire, est-ce que
là, c'est donc ça
Je m'appelle Néo, hein, juste.
est-ce que
t'as pris ta pilule bleue, ce
matin.
Ah.
Moi, tu vois, ce qui
moi, je dirais, j'espère pas.
Bah oui.
Après, parce que forcément, mais je peux pas dire mieux.
Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'avec la décroissance dont tu parles tout à l'heure, je vois pas comment ça peut être une simulation, du coup. Enfin, les deux vont pas ensemble.
Mais si non, c'est un DLC, ça.
Non, en fait, les personnes qui... ça va très, très, très largement déborder le contenu du podcast. Mais en fait, les personnes que tu considères comme terroristes aujourd'hui, c'est des gens qui sont militants écologistes.
Ouais.
Il y a un moment où, en fait, si c'est pas être anti-système et de dire que si jamais tu vis dans une simulation qui va et que tes actions vont à l'encontre de la simulation, tu vas chercher à être détruit. Les personnes qui sont militants écologistes sont cherchées
dans
à être...
Sens où il va y avoir une répression qui va pousser à aller dans ce sens-là, quoi. Ok, ouais, je comprends.
Tu vois ce que je veux dire?
Il y a du Doliprane à l'entrée, si vous voulez. N'hésitez
non,
pas.
Non, non, moi, je pense pas qu'on vive dans une simulation, non.
Et plus tard?
Non plus.
Est-ce que ce serait pas mieux?
Non plus.
Parce que ce que tu nous as décrit, c'est quand même assez pessimiste.
Ce dont t'avais peur tout à l'heure, je rapproche de la simulation.
J'en ai peur, mais j'ai foi dans l'humanité de dire qu'en fait, il y a plein de gens où ça les fait chier profondément de dire que... toutes vos conneries de numérique, de digital, de trucs. Enfin, non, il y a plein de gens qui accrochent pas sur ce truc-là et qui veulent juste faire pousser leurs patates.
Ah oui, il y en a plein qui.
Et du coup, quel film Matrix vous.
Vous les conseillez trois, les trois, les quatre d'ailleurs.
Il y a
eu un 4.
Ah. Allez, moi je vous attends tous à la sortie.
Le 4 quand même, c'est le plus beau pied de nez de l'histoire de
cinématographiquement, voilà.
Franchement, Warner a pris tellement de tarifs et les gens qui ont réussi à lire à travers les lignes de ce que faisaient les sœurs Wachowski à travers le 4, de faire un énorme doigt à Warner
c'est vrai.
Et moi je l'ai vu et je me suis questionné, je me suis dit ah ouais mais c'est dinguerie,
en fait,
dinguerie,
c'est évident.
Génial.
Bah, évident.
Oui, mais quand tu es dans l'industrie, que tu connais le
vers
du décor et que tu comprends et que tu arrives à lire entre les lignes. Oui. Sinon, tu te fais peut-être chier. Quand même.
Oui. Pardon, je vous ai pas mais le 1, côté hacking et côté se rendre compte de savoir tirer des ficelles du monde qui t'entoure, moi, c'est le 1.
Moi, ouais, c'est le 1 aussi. Direct.
Justine?
Je vais dire la même chose un peu parce que je saurais pas quoi répondre. Je les ai vus à la suite et je saurais pas dire lequel est lequel.
Merci. Parce que tout ça, c'est un seul grand film. Voilà pourquoi.
L'autre. Le futur, en toute franchise, vous le voyez comme le MCU? C'est-à-dire, il y a trop de personnes, faut en éliminer?
Ah oui. Thanos did nothing
Thanos.
Wrong.
C'est ça. Est-ce que Thanos est le méchant dans l'histoire, c'est ça?
Possiblement. Et est-ce qu'il y a pas trop de films?
Ah si, il y a trop de films, oui.
Thanos did nothing wrong.
Allez.
Drop the mic. Il peut pas le drop, mais...
Drop the gant.
j'ai vraiment, vraiment fait un burn-out sur un film Marvel en bossant à Sony Imageworks au Canada, à Vancouver. Et du coup, autant je déteste Marvel pour leur façon de concevoir des films et tout ce que ça perpétue, en fait, d'image et d'imaginaire. Et autant, je suis là en mode... Oui, derrière, je trouve que juste pour la partie de est-ce que Thanos a vraiment fait un truc mauvais ou pas en supprimant la moitié de la population, est-ce que ça règle pas un problème environnemental et écologique?
Justine?
Je te rejoins un peu, Valentin. J'ai pas envie de faire comme Thanos, mais j'avoue que je pense qu'il faudrait qu'on commence à se poser des questions sur la taille de notre population et sur ce que ça implique écologiquement quand même.
On va faire une autre émission.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de serveurs?
Définitivement, je ne vais pas me faire inviter.
C'est soi aussi. Et quel film vous conseilleriez dans le MCU?
Non, un autre, pas dans le MCU, par pitié, pas Marvel.
C'est ça qui est
Ils ont déjà trop d'argent, ça va.
Ah, mais après, tu n'es pas obligé de
quel
regarder
quel film
les
vous
gars.
Préférez, pas forcément que vous conseillerez, mais... Longue réflexion.
Il y en a beaucoup, c'est... Faut chercher.
Si, les trucs avec Neo, Trinity, machin... Non, c'est pas très MCU.
Allez, le premier Iron Man.
Mais oui,
premier Iron Man.
Parce que fan d'Iron Man.
Ouais, ok.
Le comics à la base, donc ouais.
T'es pour Elon Musk, toi? Ah ouais, d'accord.
Grand Budapest Hotel. J'ai fait des doigts et ça s'entend pas.
Si on doit rester dans Marvel, je dirais le premier de la trilogie Spider-Man, mais je sais plus comment ils l'avaient appelé, mais qu'ils ont refait là, la dernière, la plus récente.
Ah, genre No Way Home et tout ça là.
Ouais, c'est ça. Juste parce que j'aime le personnage de Spider-Man.
D'accord, ok. Ceux de Sam Raimi sont vachement bien, mais ils sont pas dans le MCU, c'est dommage. Enfin,
oui.
Si maintenant, si.
Oui, maintenant,
ouais, mais bon.
Il a pas choisi quoi.
Oui, c'est ça. T'es obligé. Allez, une dernière pour la route, et puis on va y aller.
Ouais.
Hein,
ça marche.
Parce que ça commence à faire long.
Yes.
Le futur toute franchise, vous le voyez comme Jurassic Park, il faut dépenser sans compter.
Vache.
Ah ouais.
Même moi j'ai
et
du mal.
Et c'est un dinosaure qui vous parle.
Ça fait 5 ans, j'arrive toujours pas à le suivre.
T'aurais pu nous envoyer question avant.
Bah, là, pour le coup, moi, je dirais oui, parce que ça pourrait peut-être nous aider à régler plein de problèmes qu'on a là et pour lesquels on ne fait rien.
Ah,
oui. De dépenser sans compter.
La question, c'est de dépenser où?
Oui, ça, c'est une bonne question.
En fait,
Mais...
Parce qu'on dépense sans compter, hein. Franchement, il y a des ministères qui dépensent.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah, le dépenser dans l'écologie, dans notre avenir, dans faire les choses mieux, dans, je sais pas comment dire, et dans le social peut-être un peu plus aussi. Ça va un peu ensemble avec l'écologie,
le
clairement.
Le souci, donc, c'est souvent ceux qui peuvent dépenser veulent du profit derrière. Donc en fait, ils veulent aller dépenser là où ils vont récupérer beaucoup plus. Et c'est pas toujours hyper bien aligné, en fait. Encore moins avec l'écologie.
Non, c'est sûr. Du coup, bah, malheureusement, c'est un peu problème. Enfin,
c'est sûrement le problème. Donc dépenser plus, ouais. Je suis pas sûr.
Effectivement, ça dépend. Dépenser pourquoi, ça change la question. Mais moi, j'aimerais bien qu'on dépense plus dans des endroits où on dépense
qu'on dépense
pas
mieux.
Donc on dépense mieux. Ah oui, dépenser mieux, c'est bien.
Eh, hein,
voilà. Il est fier.
Est-ce que je suis fier? Bah oui, je suis fier. Je suis fier de cette première émission. Est-ce que vous avez des questions dans le public?
Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont
Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore réveillés dans le public?
Non, je ne pense pas.
Est-ce qu'ils ont chaud dans le public? Oui. Voilà. Est-ce qu'ils ont soif dans le public?
Oui aussi.
Non, bon, faut faire la vidange. Merci infiniment à vous tous, autant que vous êtes autour de la table, et même ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont dans le public, même ceux qui sont partis. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était un très
merci.
Bon moment.
C'était vraiment
merci top. Justine, merci Valdo, merci François.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Néo.
À vous, merci le doc. Une énorme pensée à Pez. Au doc, pardon. Non, qui n'est plus parmi nous.
Qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.
Non, non, et à Bibi qui devait être là aussi. Voilà, à tous ceux qui ont orbité
à
autour
Géco,
de ce podcast.
Aussi.
Géco, évidemment. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont rendu ça possible pendant ces 5 ans. Merci au doc de m'avoir fait confiance. Parce que ça a daté d'un truc où je disais « Oh, tu fais un podcast sur le Cinoche putain, moi j'en ai déjà fait un sur le jeu vidéo il y a à l'époque. si t'es chaud, vas-y, je suis chaud. » Et il m'a fait confiance et c'est une super aventure depuis 5 ans. J'espère qu'elle va durer encore un bon moment.
Bah, j'espère aussi.
Et merci à vraiment, merci énormément à tous ceux qui sont venus. Aussi bien les potos que pas les potos que les inconnus. Enfin, tout le monde est poto ici, de moi en tout cas. Enfin, je
merci les patriots bipèdes aussi, parce que faut pas les oublier, les patriots bipèdes, bordel.
Évidemment. Voilà, on espère que cette émission.
Un les gars longue.
Ils sont deux.
Ouais. Ils sont deux, ils ont pas bougé. Ils sont enfoncés dans leur canapé.
Ils sont confo.
Ils sont confo, ça va, ils sont bien. Ils sont bien. Donc pas de questions dans le public, pas de personne, aucune question, rien. Oh la vache! On a tout
oui,
dit
après,
quoi!
Ça va être long.
Ouais.
C'est pour ça.
Eh ben merci, gros bisous à vous.
Merci, merci Valentin.
Et.
Avec plaisir.
On refera peut-être cette expérience de live.
Bah oui, écoute.
Hein, si... C'est pas mal quand même.
Si ça vous a plu, si les podcasteurs,
quel
les podcasteurs, les poditeurs ont aimé aussi le format que ça a pris, parce que c'était une forme un petit peu différente.
Ouais.
Bah pourquoi pas?
Eh ben ça marche. Et public, est-ce qu'il reviendra?
Ouais!
Bah c'est parti, salut, bisous.
Allez, ciao.